Whatever Lola wants, Lola gets.
Résiste, prouve que tu existes. Cherche ton bonheur partout. Va, refuse ce monde égoïste.
I wanna be a butch, I wanna be a butch, cause butch. Strong and sensitive. Butchs are sexy and wonderful, powerful and brave and queer and straight lies and whores.
Et on se prend la main. Et on se prend la main. Une fille au masculin. Un garçon au féminin.
L'émission pour
déranger
une émission féministe
les deuxièmes et quatrièmes mercredis de chaque mois
de 18h30
à 20h
sur Radio Kaleidoscope
97 FM.
1h30 de féminisme pur.
Embrasser. Sexe. Lécher.
Sexe, moi.
Carte ta culotte.
Carte ta culotte.
Carte ta culotte. Tétons.
À toi.
Pincer les tétons.
Toi.
Anus. Susurrer.
Ta chatte.
Ma chatte.
Lèche.
Bonsoir.
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 Bienvenue sur Dégenré, l'émission féministe pour déranger. Et ce soir, nous vous proposons d'écouter des textes érotiques de femmes, pour les femmes, pour toutes les femmes.
J'en ai marre, moi, de voir que des trucs hétéros, j'ai envie de voir des trucs un peu lesbiens. Et ben, et d'en entendre aussi. Et ben, ce soir, on en entend.
Oui, oh yeah.
Érotique.
Tique, tique, tique.
We suffer.
day. What is it for? These crowns of illusion are fooling us all. And now I am weary and I feel like I do. It's only you who can tell me apart. And it's only you who can turn my wooden heart.
La situation est troublante. Nous sommes deux étrangères dans cette cabine, isolées l'une de l'autre. Et plus ma somnolence m'éloigne physiquement d'elle, plus mon désir m'en rapproche. La sensation d'un regain de proximité me fait sursauter. J'ouvre les yeux. Mathilde est là, debout, son visage à portée du mien. Vous dormiez ? Non, je vous attendais. Je suis toujours frappée par le décalage pouvant exister entre l'intention et l'action. Qu'est-ce qui m'a poussée à lui répondre cela ? Dire que j'ai véritablement envie d'elle serait mentir. C'est elle juste parce qu'elle est là, dans ce lieu, dans ce temps, dans ce train qui file sur les rails. Elle éteint la lumière centrale. Notre univers n'est plus éclairé que par la liseuse de sa couchette. Elle pose un pied sur le premier barreau de l'échelle, je lui tends la main. Elle la néglige, se coulant contre moi en douceur. Elle pose sa joue sur mon épaule, je referme mes bras autour d'elle. Je sens son nez dans mon cou qui me respire. Le mien fouille ses cheveux et y découvre son parfum. Une fragrance de vanille domine l'effluve. Je resserre mon accolade. Ses lèvres goûtent ma peau. Je dépose un baiser au sommet de son crâne. J'ai soif de sa bouche. Je baisse la tête sur son front, embrasse ses paupières closes, atteint ses pommettes. Enfin, elle lève le menton et vient à ma rencontre. Nos lèvres s'apprivoisent à petites touches avant que nos langues ne se mêlent au bal, fébriles et furieuses, gourmandes. À bout de souffle, le baiser se fane. Je saisis Mathilde par la taille et la passe sur moi afin de l'amener dos contre la paroi de la cabine. Nous sommes côte à côte, mon corps plus haut que le sien. Je me pose sur un coude. J'ai envie de la regarder, la déshabiller, mater jusqu'à en être aveugle. Je glisse ma main libre sous son pull. Elle porte ses doigts à hauteur de mes fesses. Je gobe ses seins, ses lèvres, profitant de ce second baiser pour rejoindre ses seins. Elle ne porte pas de soutien-gorge. Je saisis un mamelon entre pouce et index, je le pince, elle gémit. Je l'interroge du regard, elle sourit. Je soulève son pull, flatte un long moment des yeux, puis de la main sa gorge, avant de mordiller tour à tour ses tétins. Mathilde se cambre. Je veux la choper au niveau de l'entrecuisse. Sa jupe me gêne. Il me faut passer par en dessous ou alors la remonter sur ses hanches. Mais ce geste me semble obscène. Mordillant toujours, je vise la fermeture éclair. Je ne la trouve pas. Je rage. Mes dents se font l'écho de mon agacement. Mathilde se tortille, couine et griffe ma nuque. Je me décide alors à passer outre mes principes et plonge, résolue les doigts entre ses cuisses. Quand je gagne la soie brodée de sa culotte, d'un coup de rein, Mathilde écrase son sexe contre ce que je lui offre. Je ferme le poing, elle s'y précipite. Je lâche ses mamelons et me recule, je retire mon poing, elle m'attrape le poignet. Sais-tu être sauvage ? Non. Je ne sais pas. Elle doit lire le désarroi sur mon visage car elle ajoute aussitôt : Tu n'es pas obligée. J'ai envie d'essayer, je me mets à genoux, je la veux nue. Je lui indique d'enlever son pull. Je la regarde faire. Elle descend cette fermeture éclair que je n'ai pas trouvée. Je lui retire sa jupe. Je caresse du bout des doigts les contours de sa culotte. Une phalange se coule sous le tissu léger. À ce simple contact, Mathilde se pâme. J'hésite entre la faire languir et, comme elle l'a demandé, être sauvage. Les deux, en fin de compte, ne sont pas forcément incompatibles. L'un et l'autre ont en commun de défier l'ordinaire du sexe dans ce qu'il a d'insipide. À ce jour, mes ébats n'ont en rien ressemblé à ce que je pressens. Je suis plutôt du genre à me laisser faire, gourmande, souvent insatisfaite par un excès de pudeur qui m'empêche de dire à quoi j'aspire. Mes amantes ont-elles été de même acabit ? Elles m'ont laissé de très bons souvenirs. Là, je parierais que l'extraordinaire va se produire. Mathilde s'offre à mon expérience. J'ai soif d'innover. J'avance les mains afin de lui ravir sa culotte. Elle soulève ses fesses, puis ses jambes. Une fois le sous-vêtement passé ses pieds, je plaque mon avant-bras contre ses chevilles et les maintiens en l'air. Elle prend appui sur le plafond de la cabine. Je m'avance, l'œil rivé sur cette vulve qui s'ouvre devant moi. Je porte deux doigts au cœur de ses nymphes et quand je les précipite en elle, je comprends le sens du verbe baiser. Je vais la prendre, la niquer, la mettre. Pas dans l'immédiat, mais c'est exactement ce qu'il va se passer. Un instant, je suis marie de ce constat. Il choque mes principes. Il s'oppose à l'idée que je me fais de l'amour. Mathilde n'est pas un objet. Je ne peux me résoudre à adopter un comportement et des pensées à l'allure si misogyne. Elle grogne son plaisir. Je renonce à ma réserve. Mon intuition me dit qu'elle n'a pas lieu d'être et de toute façon, l'urgence n'est pas aux questions métaphysiques. J'analyserai plus tard. Je retire mes doigts. Son bassin vient à ma rencontre. Je l'emplis de rechef. Elle se cambre. J'abandonne son sexe, l'attrape par la taille et la guide jusqu'au bord de la couchette tout en descendant le long de l'échelle. Son pubis est à hauteur de ma bouche. Elle pose ses jambes sur mes épaules et je la gobe. Du plat de la langue, je joue de son désir. Je fouille, détour, aspire, mastique, bois, joyeuse et appliquée. Elle se déhanche, appelant une nouvelle pénétration dont je retarde bravement l'échéance. Je souhaite qu'elle la réclame, pas qu'elle me supplie, juste la porter au-delà du supportable, là où le clitoris sature de caresses, bien qu'incapable de s'en passer. C'est un moyen de la soumettre, j'en ai peur. Mon intuition me dit que j'ai tort, pourquoi ? Nos ébats se poursuivent sur la couchette inférieure, sa jouissance atteinte dans une pénétration lente et puissante d'abord, preste et légère ensuite, fougueuse et ample enfin. Mathilde s'effondre, pétrissant ma chair avec force. Je la berce jusqu'à ce qu'elle touche terre. Je savoure au passage la moiteur sapide de son corps, l'élastique de sa peau et m'enivre des effluves de son plaisir. Quand son sourire revient éclairer son visage, je suis tellement comblée de ce qui m'apparaît être de l'ordre de la performance que j'arrêterai volontiers là l'échange. Je suis fière de moi, fière de ne pas avoir été timide, satisfaite d'avoir su résister au démon du « je ne vais pas savoir m'y prendre ». En résumé, je suis dans un état d'excitation majeure, heureuse de cette rencontre qui me donne le loisir de me découvrir une part d'excellence. Je suis peut-être un bon coup, qui sait ? Je ris intérieurement de ce soudain accès de suffisance. J'échappe à la raison. J'entre dans l'air du bon sens, celui que la morale nous interdit. Je ris de nouveau. Je suis en pleine escapade. Mon désir part à volo.
Just a dream. We've crushed everything I can see. In this morning, selfishly, how we feel, and I feel like I do. It's only you who can tell me apart, and it's only you who can turn my wooden heart.
On parle d'érotisme, faudrait pas casser l'ambiance. Mais il y a des codes qui m'agacent, ou alors je suis une grosse farce. C'est parce qu'il y a trop d'images qui suggèrent toujours les mêmes choses. Mais qu'est-ce que ça fout là ? Que oui, ce qui m'excite, c'est de bien rigoler. Alors oui, t'as qu'à débander. Ou alors on peut apprendre autrement. Je trouve tes quelques traces d'anti-érotisme très sexy. Ça me fait beaucoup rigoler. Quand tu mets des strings panthères et que tu fais... Non. Quand nos gestes sont ratés. Quand tu me fais mal avec tes os pointus. Ou quand on est tellement excité qu'on se transforme en monstre. Et qu'on n'arrive à rien. Puis à tout. Parce que j'adore les matchs de catch. C'est aussi parce que je trouve que rien n'est érotique, ou que tout l'est, que je vais démonter tes fantasmes de coït à grands coups de... C'est elle que je trouve en train de gigoter dans mes entrailles. Pas toi. Je m'ennuie dans tes calques. Je préfère jouer. Puis parfois jouer à faire comme dans le film, jusqu'à la musique. Écrase-moi les pieds. Restons muets, immobiles, pour s'entendre respirer. catégorisée de traumatisée du film porno à 8 ans ? Non. Juste, je peux vous dire, c'était vraiment trop nul. Je vais mettre du stick à lèvres sur la vulve. Aussi parce que je me dis que peut-être tu me trouveras plus belle quand tu me verras toute nue. Même que je connais quelqu'un qui trouve super les furoncles. Oui. J'ai lu dans les BD de Manara, beaucoup de gens les ont lus. Dans une d'elles, une fille se fait sodomiser par l'homme invisible. C'est une espèce de scène de viol, soi-disant excitante. Moi, le viol ne m'excite pas. Mais tout le monde est imprégné de ces images, de l'érotisme vu par les dominants. Alors moi, je préfère pas faire mine, vous dire que j'ai tout oublié. Que c'est pas parce que je veux vivre des expériences autres, de folies super surprenantes, que j'irai pas vous foutre un gros coup de tête quand il vous semblera bon de me suggérer de répondre à vos fantasmes, que je trouve dégueux. Dis, c'est quoi tes fantasmes ? Gros bide. Silence. Tu fais une bouche avec ton gras. Des fantasmes dégueux, j'aime pas ça. C'est quoi ? C'est que tu veux rien avec moi, mais avec ces images, cette culture. Branle-toi avec ton image, mais lâche-moi. Toi la fille, toi le garçon. Le patriarcat n'est pas invisible. Vous n'avez pas les yeux crevés naturellement. Les images ne poussent pas dans les bois. Allez, éteins ta télé. Les femmes enceintes ? Non, elles ne sont pas érotiques, elles sont enceintes. Comment peut-on trouver sexy un ventre gonflé et dur sur lequel on peut même pas s'asseoir ? J'aime ton gros ventre mou et flasque sur lequel je m'assois. Lèche-moi les côtes. Il semble très érotique de caresser un chat sur le dessus de la tête. En tout cas, Suzy aime bien ça. Puis on peut aussi inventer des fantasmes pour chasser ce qu'on n'a pas choisi et ce dont on n'a pas envie. Comme... ça m'excite beaucoup les robes de chambre, car c'est les dessous affriolants des bouseuses. Ou encore, j'adore quand tu me souffles dans le cou, parce que je m'imagine que t'es le truc qui sert à rallumer le feu. Ou encore, chérie, j'ai envie que tu te fasses sodomiser par notre pote. Ou encore, faire des trucs super sexuels dans les airs avec une personne sympa, volante. Ou je rêve sensuellement... des meurtres que mon amante commettra sur une armée de psychopsychiatres sales docteurs, et même encore de faire des jeux sexuels avec des lasagnes. Je fantasme à fond qu'on rigole, même toute nue, même sans bouger. Sinon, je trouve ça érotique, toutes ces grimaces qu'on s'échange à tout moment.
Épouvantable série qui passe en boucle au ralenti. Tous les soirs, à partir de minuit. Qui est ce fantôme aussi, peu blanc, qui hante les murs de ma chambre en murmurant. Oh, brave, c'est moi. J'ai dit j'ai peur du vide, j'ai peur de moi. J'ai peur, j'ai peur du flou. J'ai peur du noir, j'ai peur de vous. Les écorchés vifs et les mortes vivantes ont la tête tranchée et la langue pendante. En rang serré, ils chantent dans une soi. La peur de tout. La peur de vivre, la peur de nous. Qui est ce fantôme aussi blanc qui hante les murs de ma chambre en murmurant. Est-ce que tu veux
Et cependant, elle n'est pas comme moi. Son désir est différent de celui que j'ai d'elle. Elle me fait l'amour et ce n'est pas semblable à ce que je pourrais faire. J'ai l'impression de bouger dans le flot de son désir et cela fait partie de la séduction. Son envie m'excite, je perçois sa tension vers moi, son corps alerte, attentif, ses muscles durcis. Les yeux fermés, elle laisse courir sa main sur ma peau et son toucher me calme et me grise. Je me relâche et me laisse aller contre elle, fondante, un peu envoûtée, immobile. Fascinée, je me prépare à plonger dans l'abîme de mon corps. Elle commence son voyage en moi, me conduit par les chemins des sens, des caresses, des mots. Elle expérimente les possibilités de mon corps. Elle me pénètre de toutes parts avec son énergie, son intention de jouir de mes sensations, de m'emplir et de jouir de sa puissance à me mener ainsi, si lestement, d'une main de Gwyn qui veut quelque chose. Elle m'empoigne, me prend, regarde les émotions passer sur mon visage, palpe les tremblements qui me soulèvent pour aller plus loin, me touche au tréfonds de mon émoi et de mon corps, doucement, violemment. Ma fascination est complète lorsqu'elle est allongée sur moi. Je sens son corps, une boule de feu tournoyante dans son ventre et son sexe, un trajet de feu et de lumière qui jaillit d'elle et une vague de plaisir emplit mon anus, mon vagin, tout mon ventre, ouvre un paysage immense, fluide et lumineux. Cet espace où je suis prête à tout ce qui m'arrive d'elle est ouvert entre nous par une confiance implicite. C'est un rêve, un espoir fou et un effort constant dans notre relation pour que la confiance soit confirmée chaque jour et lorsqu'elle s'interrompt un instant, pour un détail, le geste devient muet, le corps opaque, maladroit. La configuration de son sexe est différente. Je perçois parfois que son sexe, qui pourrait avoir la parole, se tait, dans une attente non pas muette, mais silencieuse. Son sexe, comme un coquillage dur, qui retient ses paroles. Mais je sens sa tension et son désir. Parfois, je la perçois complète, comme un muscle rond, gonflé d'envie. J'avance mes doigts pour la toucher délicatement et sens concentrer là tout son désir de moi. Et ça me fait frissonner. De la toucher me fait jouir plus que je ne la touche pour la faire jouir. C'est nouveau, différent. Lorsque je lui demande « Quelle est la différence ?», elle réfléchit longuement et me dit « Tu es dynamique, je suis dynamique et tu es lascive. » Je suis très éprise, la désire fort et souvent. Je viens la chercher, la hume, caresse son bras, sa nuque. Si je l'entraîne au lit, elle proteste. Si je glisse la main sous le t-shirt large pour effleurer ses seins, elle la saisit et l'enlève. J'ai envie de son sexe dans ma bouche, de la lécher, la sucer, mais elle ne veut pas. Mais quand nous nous trouvons face à face, l'une contre l'autre dans le lit, l'envie nous empoigne en même temps. Parfois, quand je l'approche pour lui faire l'amour, la tension devient raideur, la mobilité des muscles contracture. J'ai un éventail de pensées que j'essaye d'empêcher de se déplier. Penser ne sert à rien. Son air bravache s'étiole. Il y a une fragilité, presque une friabilité. Et je me demande ce que j'ai à prouver, puisque je lui fais l'amour autant qu'elle me fait l'amour dans ce qui se passe entre nous.
Au boulot, je te vois venir vers moi. On se rapproche. Et au lieu de s'arrêter à la limite, on la dépasse. Ce frisson suffit pour me pousser à jouir, seule. Ta bouche est subtile, mais il n'y a pas besoin de la crier, tellement c'est clair. Et pourtant, j'ai envie de la voir de près, de poursuivre ce jeu jusqu'au bout. Sauf qu'après, il n'y aurait plus de jeu. Alors on trébuche sur cette limite, sachant qu'elle est si faible que le fait de poser le pied une fois de l'autre côté l'effacerait. Et c'est pour ça qu'elle est si forte. Tu veux de moi, fortement, mais tu es timide. Pas tant que ça, parce que tu oses le dire. Et ça suffit pour me remplir la tête de toi. Tu me dis que tu te sens pas butch. Tu ne sens pas comme je fonds quand tu me regardes, comme ton envie de moi me tourne vers toi. Te voir au travail fait vibrer quelque chose en moi, et j'ai envie de ses mains rugueuses, ses seins, et ses cuisses, et ses fesses charnues, ce dos, ce dos. Pousse encore un peu, et tu m'auras. Ton corps allongé sur moi, muscles tendus. Mes mains sur tes fesses, qui se serrent avec force. Ton visage couvert de sueur, d'abord des perles sur ton front, ton nez. Ensuite ça coule. Des gouttes tombent sur mon visage, ma poitrine. Ton sexe appuyé sur ma cuisse. Mon corps te plaît, c'est clair, et je te le donne. Ma jambe à plat pour que tu glisses. Les genoux pliés et tu es contrainte. Dois te battre avec moi pour avoir ce que tu veux. Ça te plaît que je te fasse travailler. Que le point de contact parfait soit un peu difficile à trouver. Tu m'as dit que le visage qui transpire, c'est la férocité. Ensemble, on laissera encore et encore de grosses taches de sueur sur tes draps. Je sens la tension monter. Je commence à comprendre tes rythmes. Je sais que ça va venir cette fois-ci. Ça n'arrive pas toujours, mais ça en vaut l'effort. Je dis « baise-moi » et ça me chauffe. Je te regarde. Mes jambes sont écartées, les genoux repliés presque au-delà du possible pour que tu rentres jusqu'au fond. Tu regardes. On ne peut s'embrasser. Tu es tournée pour regarder entre nos corps. Tu glisses dans moi. Ça t'excite de me voir te prendre, te voir glisser dans mon sexe. Tu maîtrises à peine, presque pas, tellement ta tête tourne d'être dans moi. Fuck me, please. More, please.
Ne me demande pas pourquoi, je ne sais pas, ne me le demande pas. Thérèse et Isabelle. Violette Leduc.
C'était Belladonna 9CH, frisson.
La salle de solflèche sous les toits conservait la chaleur animale de la centaine d'élèves qui avaient solfié d'heure en heure. J'entrais, je m'abattis sur un pupitre. J'entendais la goutte d'eau qui tombait dans un lavabo, j'épiais la suivante. Elle ignorait où je l'aimais. Je voulais qu'elle vienne, parce que je n'imaginais pas qu'elle ne fût pas prophète. Midi moins 20, je comptais jusqu'à 6 entre 2 gouttes d'eau. Son pas. Elle foulait mon cœur, mon ventre, mon front avant d'entrer. Une vile lumière venait vers moi. Ce serait une féerie écrasante. Je devinais que derrière la vitre, elle me cherchait pendant que je la voyais dans la nuit sous mes paupières. Je ne levais pas la tête. Je ne sortais pas des plis de mon veuvage. Des corbeaux d'étalère, du givre blanchit les noisetiers. Elle venait. Elle respirait par mes poumons.
« Je t'ai cherché partout. »
dit Isabelle. Isabelle tomba sur mon dos, elle sanglota de bonheur, elle s'assit sur le banc. Nous nous aimions et nous nous retenions. Nous nous tenions en équilibre sur le pétale d'une églantine. Elle révisa mes lèvres, elle les toucha avec une main rude.
« C'est toi ? C'est vraiment toi ?»
La main mendiait des certitudes sur mes paupières. Son visage plongea, son visage descendit plus bas que les seins. « Ton visage est trop loin. »«
J'ai déchiré ta robe ?»
Elle arrangea ma robe avec une épingle. Elle fit son raccommodage pendant que je respirais le parfum des souvenirs dans sa chevelure. Quelqu'un ?
Quelqu'un ?
Nous nous sommes séparés. Nous nous sommes cachés chacune dans un coin. Une répétitrice tourna la clé de sa chambre. Elle passa. Elle s'éloigna, paisible, monumentale.
La surveillante m'a dit de te mener chez le docteur à 4 heures.
J'accourus dans ses bras quand elle accourut dans les miens.
Midi moins le quart. Viens, viens, nous sommes...
Nous sommes tombés sur les marches de l'estrade.
Midi moins le quart, Thérèse.
J'hésitais à cause de mes doigts tachés d'encre. Ne m'empêche pas, dis-je par timidité. Je craignais de la dégrader en soulevant sa jupe.
Presque midi moins 10.
Si tu ne parles pas plus bas, nous serons prises. J'ai soulevé sa jupe. Isabelle a frissonné contre ma tempe. Je me suis aventurée sous la jupe plissée. Ses dessous m'ont fait peur. Elle était trop indécente sous sa robe. Ma main avançait entre la peau et le jersey.
Laisse-moi faire. Ne regarde pas si ça te choque.
J'ai regardé. Elle s'est soulevée. Elle m'a rendu ma main.
Il te serrait.
Il te serrait, mon agneau doré. Tu es chiffonné. Tu sens ma joue sur toi, mon petit Mongoli. Je te peigne, je te démêle, je te cajole, mon petit Mordoré. Tu brilles, Isabelle, tu brilles. Je me suis levée, je l'ai toisée.
Reviens, ne me laisse pas.
Tu veux ? J'étais sadique. Attendre et faire attendre est une délicieuse perdition. Si l'on nous surprenait, ai-je rêvé à voix haute ?
Je ne peux plus attendre.
Elle gémit, elle tordait ses mains sur son visage. Je suis tombée à genoux devant le médaillon. J'ai contemplé le rayonnement dans la touffe. Je me suis risquée en contrebandier, mon visage le premier. Isabelle a donné un coup de ciseau avec ses jambes. Je regarde, je suis prise. Nous avons attendu. Le sexe nous montait à la tête. Isabelle s'est fendue de la tête aux pieds. Un nombre incalculable de cœurs battait dans son ventre, sur mon front.
Oui, oui, moins vite. J'ai dit moins vite. Plus haut, non plus bas. Presque, t'y es presque, oui. Oui, c'est presque là, plus vite, plus vite, plus vite.
Ma langue cherchait dans la nuit salée, dans de la nuit gluante, sur de la viande fragile. Plus je m'appliquais, plus mes efforts étaient mystérieux. J'ai hésité autour de la perle.
Ne cesse pas, je te dis que c'est là.
Je la perdais, je la retrouvais.
Oui, oui. Tu trouves, continue, je t'en supplie. Là, oui, exactement.
Son angoisse, son autorité, ses ordres, ses contre-ordres m'égaraient. Tu ne veux pas me guider ? Dis-je, séparé de l'univers fantastique. Je lui demandais, entre les lèvres du sexe.
Je ne fais que ça ? Tu ne penses pas à ce que tu fais ?
J'y pense trop. J'ai mouillé de larmes de sueur, sa toison. Apprends-moi. Apprends-moi.
Ôte ton visage, regarde.
Isabelle, couchée sur les marches de l'estrade, s'est cherchée, s'est trouvée.
Approche-toi, regarde, regarde, c'est lui, là. Tu le perdras, tu le retrouveras. Non, pas maintenant, toi.
J'ai regardé ses cheveux mordorés dans l'angle de ses doigts. J'ai frémi du frémissement des muscles de sa main. Le doigt tournait. Bientôt, je vomirais les délices de son orgasme. Son cou se tendait, son visage partait. Ses yeux s'ouvrirent. Isabelle voyait son paradis.
« Toi, pas moi !»
Elle s'est quittée. Elle a fermé son poing. « Midi une. Elles sont au réfectoire. Midi une. J'ai peur de me tromper. »
« Oui, oui, jusqu'à ce soir, il le faut !»
Je m'appliquais tant que je goûtais à de la chair irréelle. Je pensais trop près du sexe que je voulais lui donner ce qu'elle désirait. Mon esprit était pris dans la chair, mon abnégation grandissait. Si je manquais de salive, j'en créais. J'ignorais si c'était médiocre ou bien excellent pour elle, mais si la perle se dérobait, je la retrouvais.
« Ce sera là, ce sera toujours là. »
Nostalgie et béatitude se mélangeaient.
« Tu as trouvé ?»
Elle s'est tue. Elle a guetté ce qu'elle ressentait. J'ai reçu ce qu'elle recevait. J'ai été Isabelle. Mon effort, ma sueur, mon rythme m'excitaient. La perle voulait ce que je voulais. Je découvrais le petit sexe viril que nous avons. Un eunuque reprenait courage.
Je vais jouir, mon amour. C'est beau. Je vais jouir, c'est trop beau. Continue. T'arrêtes pas. T'arrêtes pas. Toujours, toujours, toujours.
Je me suis soulevée. Je voulais voir un oracle sur nos paillasses.
« Ne me quitte pas, ne me laisse pas »
dit-elle affolée. « Tu me le diras » dis-je, mon visage dans la fournaise du sexe.
« Oui, ne me quitte pas !»
J'ai persévéré, j'ai été le reflet de l'autre.
« C'est commencé, cela a commencé, cela monte dans les jambes, oui dans les jambes, oui mon amour, oui, toujours, continue dans les genoux, dans les genoux !»
Elle regardait la sensation, elle appelait à l'aide. Cela monte plus haut. Elle s'est tue. J'ai été submergée et balayée avec elle. J'ai eu des stigmates aux entrailles.
Cette fois, on en vient. Cache-toi. Je sors. Je masquerai la vitre. Va au dortoir. Nous sortirons ensemble à 4 heures.
Nous nous sommes remerciés avec des sourires fragiles. Tes cheveux. Elle enferma le désordre et la folie dans sa torsade et elle sortit, maîtresse d'elle-même.
Tonight we're gonna make it happen. Et maintenant, nous, on va lire un texte par Michel Tee de San Francisco qui s'appelle « Rose du No Man's Land ». C'était un rêve. Enfermé sur un terrain de golf, la nuit, la grande route de l'autre côté bourdonnait et flashait avec ses voitures sans fin. Mais le terrain était un havre de paix. Les ailes du moulin étaient immobiles. La fontaine grenouille était sèche. Les lampadaires éclairaient les promenades et brillaient sur les gnomes aux faces à donner la chair de poule, groupés, amassés partout autour dans la place. J'ai suivi Rose dans un rayon lumineux de l'hippopotame du même néon orange que T-Rex. Sa bouche altérée, abîmée, était grande avec ses dents rondes et alignées. « As-tu déjà joué ici ?» ai-je demandé à Rose. Elle m'a pris le paquet et m'a fait un signe de tête fuyant à l'intérieur à la recherche de cigarettes et de coke crack crystal. Elle tendait le petit sachet à la lumière, louchant d'éblouissement.
« Merde ! T'aurais une carte du type carte bleue ou autre ?»
Je secouais la tête. Je n'ai pas de compte bancaire, haussant les épaules. Je n'ai pas d'argent.
As-tu un permis de conduire ou un truc pour que j'écrase ça ?
J'ai scruté les sacs traînant autour de l'hippo. Il y avait plein de petites choses dedans, comme de la poussière caillouteuse, des géodes fondues, brisées. Nous sommes allés au musée de sciences en excursion une fois, et j'ai vraiment aimé des géodes. Le fait qu'il pouvait y avoir des miettes, des bijoux cachés juste dans un caillou sans grand intérêt. « Est-ce que ça vend de la roche ?» j'ai demandé. « Ce truc ?» Rose a secoué la tête.
« Non, ça vient de... comme l'acide de batterie, je pense. » Comme des batteries de voiture, ça, puis du spray nasal.
Spray nasal ? Je ne comprenais pas comment quelque chose pouvait venir de spray nasal. Encore moins ces jolis petits morceaux. L'acide de batterie avait tendance à m'affrayer. Peut-être que Rose se foutait de moi. Cependant, ce n'était pas son genre. J'en étais heureuse. Rose était assez honnête et sérieuse. On pouvait dire qu'elle n'était pas une de ces filles qui te claque ou baffe en disant « va te faire » et qui, tu t'agaces, dit « oh mon Dieu, je rigole avec toi, c'est tout ». De sorte que tu rigoles et prétends que c'est fendant de se faire gifler et envoyer chier. Il me semblait que si jamais Rose me disait de me caresser, ce serait que elle le voudrait vraiment et c'est rassurant et apaisant d'être auprès d'une personne comme ça. Parce que Rose m'a dit de trouver une balle de golf, j'ai marché autour du terrain. J'ai jeté une coupe d'œil derrière des gnomes et les différentes statues plantées le long du chemin. Je ne trouvais aucune balle. J'errais autour de la fontaine grenouille et courageusement, j'enfonçais ma main au fond du trou. Ma main cogna quelque chose et je la retirai rapidement. C'est sacrement, foutrement, effrayant d'enfoncer ta main dans un trou noir. Comme rien ne sortait en courant de la petite cavité, j'y réglissais ma main et enrobais la balle de golf. Je l'ai ramenée à Rose comme si j'avais, je sais pas, fait quelque chose de génial et gagné un prix. J'avais un immense sourire sur le visage.
Yeah,
s'éclaffa Rose. Elle posa ses drogues sur le dos de l'hippo et fit rouler la balle dessus encore et encore, avec le projecteur l'éclairant du dessus, ombrageant son visage et éclairant la courbe de sa tête, son crâne d'oiseau avec son chapeau, sa casquette à plat, chevaux noirs. Rose avait l'air surnaturel. Elle ressemblait à un charme. Son visage penché sur ses mouvements répétitifs, le bruit dérapant de la balle qui roule. Soudain, j'ai voulu une cigarette. Je ne sais pas comment l'expliquer. Regarder Rose faire son étrange petit truc de drogue comme si je n'avais jamais été là, concentrée et respirant à travers sa bouche fine. Ça m'a emplie d'une sensation que je ne peux pas qu'appeler compulsive. C'était comme si je voulais dire quelque chose d'énorme, comme si je voulais dire qu'une météore se crache sur le T-Rex miniature du terrain de golf, nous précipitant dans le mort et mettant le monde à feu. J'ai senti une énergie liquide, nerveuse, me parcourir tout le corps. « Je peux avoir une cigarette ?» je lui ai demandé. Elle a levé les yeux de son travail.
« Bien sûr, tu veux essayer une nouvelle fois. Tu sais où elles sont. Hein. »
L'allumette s'est vite consumée dans l'air de la nuit. Il n'y avait pas de vent, juste ce grand air partout autour de nous. Air parfait, pur, qui s'élevait dans le ciel nocturne. Air légèrement humide, qui sentait comme les fleurs poudreuses, les bébés propres, comme roses. Je tenais l'allumette et fis crépiter ma cigarette à la vie, évaporant toutes les bonnes odeurs avec ma fumée toxique. Mon esprit se figua sur le vieux Harry, se gaspillant dans son brouillard exhalé. J'ai sorti cette image de ma tête. Devais-je penser au vieux Harry Chester chaque fois que je verrais une cigarette tout le reste de ma vie? Ça me semblait probablement intéressant de me mettre à fumer simplement pour donner à mon cerveau impressionnable une série de nouvelles associations à la cigarette. Rose tapait délicatement les cristaux écrasés sur le dos de l'hippo. Avec la boîte d'allumettes, elle les a mis en forme de traînées d'escargots sucrés. Ma cigarette brûlait telle une planète incandescente dans la pénombre. Cette fois, le choc fut plus faible et j'ai retenu la latte, mes yeux larmoyants dans le noir. Ensuite, j'ai senti ma tête se vider et se ballonner haut et loin. Je me suis penchée étourdie sur l'hippo. Je n'aurais jamais cru que des cigarettes faisaient planer, j'ai dit à Rose. Sinon, j'aurais essayé plus tôt.
Elles te font planer seulement la première fois. Alors profites-en. Ça va vraiment te faire planer par contre. Es-tu prête?
Pour l'acide de batterie? Ai-je demandé. Je regardais les deux tas sur le dos de l'hippo. J'ai trempé mon doigt dans l'un des tas, doucement, et j'ai tenu incliné dans le ray de lumière. Ça ne pouvait sûrement pas être l'acide de batterie. C'était trop joli. Ça semblait à de l'ombre à paupières, très cher. Quelque chose comme ça. Brillant, scintillant. Je me suis retirée et j'ai déposé sur le jus de rose et son rire fou comme l'appel de quelque animal exotique, cri de forêt tropicale. Elle repoussa ma main.
Lèche ton doigt, ne gaspille pas.
Elle me dit, brossant, essuyant la poussière de son visage et ensuite léchant ses paumes. Elle tordit, plia le biais en vin de vin en une fine paille et une extrémité effoncée dans son nez. Elle se penchait sur le drogue et les inhala. Elle secoua sa tête en arrière dans le rayon du projecteur éclairant le gazon. Je pouvais voir son pâle cuir chevelu, ses cheveux épais, jaillissant des pores minuscules. Rose était absorbée par son nez, le frottant, ronflant, reniflant.
« Wow !»
elle a dit en cherchant les « yikes ». Elle plongea son doigt dans le goulot de la bouteille. On s'en passa un petit coup sur son nez. Est-ce que sniffer ce truc se donnait envie de tout sniffer, je me demandais. Je regardais les effets visibles de la drogue sur Rose. Son visage s'était recoloré. écarlate comme lorsqu'elle travaillait. Ça attend autour des friteuses. Ses yeux étincelaient. L'étincelle de la drogue goûtait dans ses yeux et se durcissait. Les rendait brillants. Elle me tendait le billet.
Vas-y, fais-le. Écoute, ne souffle pas, inspire fort.
Hein? J'ai dit.
Sérieusement? La première fois que j'ai fait, je ne sais pas, j'ai juste soufflé et envoyé toute la poudre en l'air.
C'était quand la première fois qu'on te l'a fait?
Au boulot, dans les toilettes. Marty, un des cuistots, en avait et il l'a partagé avec moi. On l'a fait dans les toilettes. Et après, on l'a fait dans les toilettes.
Elle a ri. Je penchais ma tête sur le tabrion. Rose l'a fait avec Marty, le cuistot. Qui était Marty le cuistot? Est-ce que j'aimerais le faire avec lui aussi? J'ai tendu ma cigarette à Rose qui a tiré une grosse latte puis a sniffé la bouteille. Avec le billet de vin calé dans ma narine, j'ai inhalé comme pour que mon souffle éteigne le feu qui brûlait dans ma poitrine. C'est arrivé comme une balle dans mon nez et puis ça a piqué au fond de la gorge. « Oh mon Dieu !» haletais-je. Mon nez semblait anesthésié. Je l'ai touché pensant qu'il saignait, mais c'était sec.
« Ici, ici, ici !»
Elle me tendait la bouteille.
« Mets-en un peu sur ton nez. »
Mais c'était ma gorge qui était épouvantable, comme si elle se ratatinait sur elle-même, agonisante, s'écroulante, la poudre scintillante, la brûlant. Mais je comprenais ce même. Je comprenais ce que pouvait être l'acide de batterie, ce que pouvait être le spray nasal. Quelqu'un en médecine avait joué le savant fou avec, jusqu'à ce que ça semble t'ouvrir les sinus au lieu de te les éclater. Je balançais le yik au fond de ma gorge, avalant ce qu'il restait. Rose en avait préparé un autre. J'appréciais ce partage de travail, de tâches. Sûrement que je devrais planquer cette merde illégale, mais Rose avait arrangé les drogues sur le dos de l'hippo et prenait maintenant soin de moi, prête avec une vodka. J'ai ressenti un allant d'immense gratitude. Si tu es si gentil, je lui ai dit. Tu es vraiment, vraiment attentionné. J'espère que ça ne sonne pas gay. Je veux dire pas gay. Je sais ta mère est gay. Ça me paraît assez cool, avoir une mère gay. Non? Ou est-ce que c'est difficile? Ma mère n'est pas gay. Elle a ce mec qui je déteste totalement. Si elle était gay, au moins, tu sais, il serait pas là. Tu sais? Donc, ça doit au moins avoir des bons côtés d'avoir une mère gay. Je pouvais sentir mon cœur battre et convulser dans ma poitrine. Allais-je mourir? Je me sentais bien, mais ces sensations étaient interférées par la pensée que je pouvais mourir. D'une overdose de drogue, au golf miniature de T-Rex. Peut-être avais-je toujours été attirée par ça, parce que je savais physiquement que ce serait là que je mourrais. Que je mourrais d'une mort de droguée près de l'hippo orange avec une fille avec aux cheveux noirs nommée Rose. « Vais-je mourir ?» je lui demandais. Elle trouva ça marrant. Elle retira sa main de la bouteille et la plaqua sur mon t-shirt « Weight Watchers » à l'endroit où mon cœur battait et coignait à l'intérieur de ma cage thoracique.
« C'est ton cœur ?»
dit-elle, sentant le battement comme un bébé qui coigne dans l'estomac d'une femme enceinte. « Pas de malaise, voulais-je dire, mais tous mes mots étaient coincés, bloqués, quelque part derrière d'accidents de voiture qui étaient mon organe primaire. Je ne pouvais pas parler. Je me sentais juste mal avec ce qui était les meilleures et les pires sensations que je n'avais jamais ressenties, passant de l'intérieur à l'extérieur de mon corps. Et maintenant, Rose était penchée sur moi, une main tenant ma cigarette élégamment, telle une dandy, comme flappeur, une jeune fille dégagnant les normes vestimentaires et comportementales dans les années 20. Et je pensais. Et j'ai dit, essayant de ne pas grincer de la voix, tu ressembles une dandy. Et ça la fait sourire et elle ferma les yeux dans les noirs et plonge son propre trip, une main tenant la cigarette, l'autre à plat sur mon cœur, qui commençait peut-être à le ralentir, ou peut-être que je m'habituais à son nouveau rythme. Et Rose se pencha sur moi et m'embrassa. Et la réelle utilité de la drogue devint claire. Le baiser effaça la mauvaise sensation de panique comme une sorte de douce, amicale violence dont je n'avais jamais fait l'expérience auparavant. La bouche de Rose mâchait la mienne. Elle lança la cigarette sur le gazon artificiel et je me moquais de savoir si ça pouvait flamber. Je pensais que ce serait bien, vraiment, que c'était la météore dont j'avais besoin qui avait attiré là, sur mon corps, me poussant dos contre le sol artificiel décharné et avançant partout sur moi comme une araignée ou une fille crabe de science-fiction venant d'une autre planète. Les dents de Rose me mordiront. Et je jure que nouveau talent fleurit en moi, embrassé. C'était le meilleur et j'étais bonne à ça. Et j'avais raison, curieusement. Tout le temps dans ma chambre, j'aurais pu embrasser quelqu'une, embrasser Rose. Mes mains épongeront une poignée de ses cheveux et maintiennent son visage sur le mien. Nous nous mordions la langue, l'un et l'autre. Et c'était débordant de sensibilité et spectaculaire. Et sa main glissait là où est mon cœur et là où sont mes seins. Et elle les a touchés. Et c'était bon ce qu'elle faisait. Tout à fait ce que je voulais. Et je réalisais que mon corps était en feu. Que finalement il venait. Qu'il arrivait et Rose pouvait l'avoir. Je pensais que je pouvais toucher les siennes aussi comme elle avait touché les miennes. Donc, je le fis. Je glissai mes mains sur l'encolure de sa robe de soirée et je l'ai senti chaud et froid. Je l'ai touché et sa bouche s'ouvrit plus grand et son souffle brûle me consuma et je me sentais embouillée comme une planète ruinée avec ses doigts osseux. Elle me pinçait et ça me faisait mal et je voulais que ça me fasse encore plus mal. C'était comme si je ressentis tout et du coup, je devenais dingue, comme mon corps est soudainement surhumain. Ressentais les sensations aussi intensément que les sensations les plus intenses puissent être exprimées. La langue de Rose qui plonge et le pincement de ma lèvre entre ses dents. Ses griffures sur ma peau, sur ma jupe. Elle s'écarta de moi et prit une grande gorgée dans la bouteille de verre et plongée sur moi. Ses mains autour de mon cou. Elle me tirait dans une roulade et je finis sur elle et elle se tortilla sous moi, sa robe de soirée enchevêtrée. Je vis ses sous-vêtements. Je vis les trous autour des élastiques et leur couleur passer dans l'oreille de lumière par-dessous les peaux. Je vis ses sous-vêtements, elle les toucha et elle gémit. Elle colla sa bouche sur mon oreille et la chatouilla. Je la touchai encore et puis encore et réalisai que je pouvais la toucher tant que je voulais et je me sentais comme le roi d'une île de jackpot au Super Lotto. Je pensais que c'était notre terre, une terre de verre en plastique et de gnomes observateurs et de dinosaures obligeants. C'était notre terre à nous. J'étais son roi, sentant l'endroit changer comme je le touchais, sentant sa mutation, transformation derrière la toile. Et j'admis que bien je me sentant comme son roi. J'étais affrayée de modifier la structure et de toucher au-delà de celle-ci. J'étais affrayée même de penser que je savais qu'elle l'avait fait avec une type appelée Marty. Ou peut-être étais-je affrayée par ce type appelé Marty, mais d'un autre côté, j'étais affrayée de faire plus que de toucher et de toucher et de toucher encore plus. Alors, c'est ce que je fis et ça sembla plaire à Rose.
Gervais, Ride Off Me.
C'est le petit matin. Elle a dormi une partie de la nuit tournée contre moi. J'étais toute la nuit sur le dos. Elle se collait à moi. À des moments, elle posait son bras sur mon torse pour tenir mon épaule. À d'autres moments, elle m'entourait de sa jambe et enfonçait sa tête dans mon cou. C'est le petit matin. Je m'éveille un peu. Je suis toujours sur le dos. Elle est tournée de l'autre côté. Je me levais contre elle, me caler dans son dos, la serrer doucement, ne pas la réveiller, me rendormir contre elle. Je suis toujours sur le dos. Je regarde son épaule, je regarde le plafond, son épaule, le plafond, son épaule, le plafond. Je suis toujours sur le dos. Elle dort, elle respire, je l'aime. J'essaie de respirer. Je suis toujours sur le dos. Toujours, toujours. Je ne peux pas me tourner. Je ne peux même pas glisser ma main dans son dos. Mon corps est immobile le jour, la nuit. Des sangles invisibles contiennent mes mouvements. Toujours, toujours. Ce n'est pas un fantasme éveillé, ça n'est pas un jeu. Ça s'appelle un corps handicapé. Je ressens, j'ai envie, mais... Je vois le plafond, je suis le plafond. J'essaie d'assassiner mon envie. Je cherche à évanouir mon esprit qui me visualise en boucle le geste de se tourner contre elle. Je déteste mon corps, je déteste qu'il se soit réveillé. Pas qu'il se soit réveillé à côté d'elle, mais qu'il se soit réveillé en moi. Je serre la mâchoire. Ça se fait pas de crier au petit matin. Pourtant, j'ai une fois de plus ce silence qui hurle, et la rage qui ne peut se frapper qu'à l'intérieur de moi. J'ai l'impression que le plafond va me pleurer dessus. J'ai peur que depuis son sommeil, elle perçoive ma rage. Je ferme les yeux. J'écoute sa respiration. La respiration est un des rares mouvements sur lequel je peux me caler. Je suis son rythme, ça m'apaise. Je veux sentir mes poumons contre les siens. Je ne comprends pas pourquoi tout murmure en moi « tourne-toi contre elle », puisque c'est un geste qui n'appartient pas à mon corps. Ce geste, il n'a jamais pu le faire, et il sait surtout qu'il ne le fera jamais. J'aimerais parvenir à désintégrer ses gestes mentaux. J'aimerais. Me rendormir contre elle. Que sa présence me montre une fois de plus que c'est possible. Ce truc qu'elle sait faire, dénicher les failles dans mes murs, nous y glisser. Je ne vais pas la réveiller. Je ne vais pas lui demander qu'elle m'aide à me tourner, ni qu'elle vienne contre moi. Je vais me réveiller du plafond qui me nargue, de la rage qui aveugle les possibles. Je détiens une solution. Qu'un autre corps que le mien ou le sien fasse les gestes. Ça veut dire décorporaliser mes gestes. Ça veut dire expliciter et formuler clairement mes envies dès le réveil. Ça veut dire temporiser mes désirs. Ça veut dire médiatiser ma gestuelle. Ça veut dire opérer une cassure dans le rythme du petit matin pour tenter de le poursuivre. Ça veut dire appeler l'assistante de nuit, qui dort dans une pièce à côté de la mienne, que j'appelle lorsque j'ai besoin de soulager une douleur des membres ankylosés. La peur est de la réveiller lorsque je dois rappeler, à la voix assez fort, ou encore que l'assistant soit déjà parti. J'hésite plusieurs minutes. Je regarde le plafond. Plus j'attends, plus il y a de chances que l'infirmier, qui entre sans précaution pour me lever tous les matins vers 8h30, arrive. Je me décide et j'appelle. Par chance, l'assistante entend du premier coup. W entre discrètement dans ma chambre. J'ai pas envie de regarder son visage. Je souhaite qu'il reste cette ombre debout à côté de moi, comme venant du sommeil. Même, je préférerais que ce ne soit qu'un robot sur commande. Je chuchote à l'ombre que je veux me tourner de ce côté. L'assistant découvre la couette, positionne ses mains sur ma hanche et mon épaule et me pivote. J'aime ses gestes, silencieux, discrets. Je lui demande de rapprocher mon bassin contre elle. Il hésite. Elle a appris à n'exécuter que des gestes médico-techniques. Je ne veux pas qu'il tarde. Je ne veux pas la réveiller. Plus près d'elle, je chuchote fermement. Il cale mon corps à son corps que je sens enfin respirer. Je souris dans sa nuque. L'assistante me recouvre de la couette. Je lui demande de poser mon bras autour d'elle. Il m'emmène mon bras vers son ventre, un peu maladroitement. Elle attrape mon bras, glisse sur ma main. Elle soupire comme un sourire. Je la serre doucement. Elle appuie son corps au mien. Je ferme les yeux. L'assistant sort. Je suis immobile contre elle. De cette immobilité connectée, qu'elle seule m'a appris peu à peu à vivre, à ressentir et aimer.
J'aimais tout tenir des trucs.
Free the Palestine. Free the paix. Elle met le CD. La lumière tamise le mobilhome juste comme il faut. L'humidité commence à s'installer par les cloisons trop fines. L'odeur plastifiée s'installe et efface celle des chiens qui sont enfin endormis. Elle a redoublé d'efforts pour faire de ce cube en plastique un lieu pas commun. Je me croirais dans une cabane aménagée avec autant d'intention qu'un enfant aurait pu le faire pour sa cachette. Et ça marche. Elle s'est installée dans une banquette, et je la sens derrière moi qui me regarde m'atteler à la couture d'un patch « Space Invaders Against Homophobia ». Elle se moque de moi, de nous. On ne ressemble pas ce soir à l'image sexy qu'on avait l'une de l'autre quand on s'est rencontrés. Ça fait du bien, lâcher l'apparence et se montrer en riot campeur. Ça nous fait rire et ça nous rapproche sans fioriture et sans spectaculaire. Je la sens qui m'observe dans le silence. Et ça me traverse par le dos. Ce frisson instantané et violent sous ma peau qui s'épaissit et se renforce à coups de t-shoot. Elle ne dit rien. Silence et imagination. Je me sens joueur aussi. Le roi du silence m'inspire. Et je ne bronche pas quand elle passe ses doigts sous mon nez. Invitation manifeste à l'odeur de cyprine. Je ne bougerai pas. Ma raison en résistance à mon corps. Bas-ventre qui se tord. Dix clites qui fourmillent. Elle me mate, debout devant moi, m'affrontant avec force. Et toujours ce silence derrière son sourire plein de cruauté. Je fonds. Est-ce qu'elle me baisera quand mes doigts, ma main tout entière seront happés par sa chatte ? Je le veux, je la veux. Je veux qu'elle blesse mes hanches dans son abandon contrôlé, qu'elle endolorisse mon cou et mon torse de ses violents coups de dents, répétitifs, crescendo jusqu'au cri. Mon cri et ce délice électrique. Elle se barre et je reste là comme un idiot dans ma table de couture à fantasmer sous la promesse de son jeu. Sans conteste, elle est féline, timide, mais rusée. Tant pis, je continue ma couture très précise dans mes gestes, appliquée à ma tâche. Je la vois entre deux coups d'aiguille qui passent le cul à l'air. Naïf et certain que son jeu s'était arrêté à m'exciter, point barre. Je ne sourcille pas et je continue à coudre très concentrée. Elle est de nouveau face à moi, et cette fois, quand je relève les yeux, je comprends mieux pourquoi j'ai vu son cul à l'air tout à l'heure. Elle est dans une robe courte en toile épaisse, comme un genre besace militaire, rattachée par des sangles en chambre à air qui maintiennent la robe dans son dos. DIY. Je suis assez fan. En fait, je sais pas quoi dire. Je n'ai aucune envie de continuer à jouer à celui qui tiendra le plus longtemps avant de se jeter sur l'autre. Elle est contente d'avoir réussi son coup. Ça se lit sur son sourire satisfait quand elle tourne sur elle-même pour me montrer sa robe sans dos qui laisse apparaître son soutif et son cul. Cuir et clous. En fait, cette robe n'a pas de dos. C'est plutôt une sorte de tablier amélioré, juste des lanières de chambre à air, stoppant net au-dessus de ses reins. Je voudrais lui arracher, mais c'est elle qui définit les règles du jeu. Quand j'approche ma main pour toucher la matière, elle me bloque en me demandant si j'aime. Joue l'enfant timide, à fond. Ça a l'air de lui plaire, puisqu'une fois à cheval sur moi, elle m'ordonne d'un baiser profond de la déshabiller. Je prends mon temps. J'oscille entre ce tissu rigueux qui m'excite, sans que je m'explique bien pourquoi, et la chambre à air. J'enlève sa robe, qui tombe sur ses docks. Il ne lui reste plus que son soutif en guise d'armure et ses rangeaux. Et moi qui suis déjà excitée et tendue dans tout mon corps. Elle sait ce qu'elle veut, et je sais ce qu'elle aura. Ce que moi aussi j'aurai. Je me lève enfin de ma chaise. La jette sur la banquette. La cabane n'est plus aussi enfantine tout d'un coup. Les rimes du hip-hop se font sourdes. J'entends son souffle, ses gémissements de panique excités, sa satisfaction invitatrice. J'en sens mon souffle qui devient rauque et qui se mêle au sien. Au-dessus d'elle, mes mains se font plus sévères et mes doigts se resserrent sur sa gorge, comme un massage, par compression altérée. Elle calcule sa respiration, maîtrise parfaitement le moment où elle lâchera prise. J'adore baiser avec elle, je lui dis, dans un soupir. Quand je crois que je l'ai, c'est elle qui finalement me baise et ça me plaît. Être son jouet, celui qu'elle commande d'un simple regard. J'aime me laisser prendre au jeu et perdre le contrôle sous son excès de passion. D'une main, je lui en serre complètement le cou. Cette fois, elle ne reprendra son souffle complet que quand j'aurai lâché ma prise. Elle devra contrôler et gérer l'oxygène qui lui reste. Elle peut tenir si longtemps comme ça que bien souvent ça m'impressionne et j'éprouve tellement de respect pour elle. J'essaie de la faire perdre. On s'affronte, encore. Elle me toise de son regard amusé et excité, alors qu'en moi je me sens partir loin, j'ai envie de la prendre, brutalité contrôlée. Je lui prends un téton entre deux doigts et le tourne un peu, et d'un pincement de plus en plus intense, je m'amuse cruellement à le faire tourner sur lui-même. Elle me tend des pinces que je laisse se refermer doucement sur ses tétons. Ses seins sont durs comme de la pierre. Mais elle lâchera, elle essaiera de reprendre son souffle quand la douleur sera tellement bonne qu'elle ne la contrôlera pas davantage. Je lâche prise et je me jette sur elle. On se bouffe littéralement, happé par nos langues, nos bouches joueuses, irrassasiables, peau affamée. Elle me serre fort et j'en voudrais encore plus. Elle me mord, me prend le cou comme un vampire et ma tête commence à tourner. Elle prend ma peau sous ses doigts, me pince de plus en plus fort, dans ses mains. Et elle me malaxe comme si elle allait me l'arracher des os. Ça me fait mal. Décharge électrique dans les reins, brûlure étouffante sur le torse. J'aime comme elle me touche, comme elle me pousse. Je suis son jouet qu'elle peut mettre dans tous les sens si ça la chante. Elle le sait, je crois. Elle me fait mal et pourtant elle se contrôle pour ne pas aller plus fort. Si elle pouvait, peut-être bien qu'elle m'arracherait la peau. Et je consentirais. Je vacille. Je la prends avant de perdre pied. Ça s'installe en moi comme une morsure à l'entrejambe. Mon dick clit a gonflé à mort et chaque frottement me brûle doucement. Certains de ces mouvements m'envoient de violents pics dans le bas-ventre. Et j'en veux plus, encore. Elle aussi en veut plus. Sa chatte est trempée, la mienne aussi, et les cercles qu'elle dessine avec ses reins m'invitent à la baiser. Je veux la faire attendre. Que ce soit une torture pour elle qui a si faim que je ne la prenne pas tout de suite. Je gante ma main. Le latex noir claque sur chaque poignet quand je l'ajuste. Échange de regard quand je fais couler le lube dans le creux de ma main. Jeu de main sur sa chatte, à l'entrée de son vagin, où je fais pression pour qu'elle me supplie de la baiser. On a assez joué, elle est prête. Je rentre en elle. Elle m'aspire quelques doigts et je m'amuse à l'intérieur. Je l'attrape comme un signe qui dirait « viens par là ». Puis ressort, et ainsi de suite, en ajoutant un doigt, puis deux. Changeant de rythme au gré de ses allaitements. Jusqu'à ce qu'elle me prenne complètement. Sans retirer ma main, je laisse couler du lube sur mon poignet et je l'étale sur sa chatte de mon autre main. Je la masse, elle se détend et contrôle parfaitement sa respiration. Ça me fait partir. Et c'est ce son comme celui des pieds nus dans la glaise qui prend le dessus sur nos souffles. Et le plastique tangue, les tasses tremblent. Je la baisse si intensément que je ne sais plus qui baisse qui. Mon poing fermé cogne aux parois de son bas-ventre, me fait vaciller. Elle me dirige dans un va-et-vient lent mais ferme et je m'exécute. On se mélange. Notre odeur est bonne, épice et sucre. Et sous le mobilhome qui menace de s'effondrer, on râle encore et encore, jusqu'à ce que nos mouvements nous épuisent. Que sa cyprine jaillit sur mon visage que j'ai mis entre ses jambes. Puis partout sur mon corps et sur son corps, entre ses cuisses, ses chevilles. Quand elle recommence, puisqu'elle a tenu mon poing prisonnier. Alika.
And you belong to me, and you belong, and you belong, and you belong.
Take off your britches, dress you like a French maid and watch you do the dishes. Girl, you look delicious, let me snap some pictures. Better yet, let me grab the video camera. You're a professional, so far from an amateur. You know what you're doing, you know what I like. And you know that talking dirty surely gets me excited. Like, when I ask you, who's my bitch? Baby girl, I got to know who I'm fucking with. Like, do you need it? Do you deserve it? Then get on your knees and prove that you're worth it. Work it, girl, like you're making a living. Gotta make me believe you can take what I'm giving. Cause when push comes to shove, I love the attention. And really tell me what's wrong with that. I know how to bottom out when I want it from the back. Cause I'm a switch hitter, a go-getter. Oh, so sweet that you creeps get bitter. But I got a good thing that does me right. So if you wanna know what it's like, it's like an overall tan. Money in my hand for the first time I could finally do a headstand. It's like an A plus after a long study. Didn't know things could ever be this lovely. This must be why people go nuts. Ditch all their friends and then say, so what? I'm just kidding, but for real, no words could express how you make me feel inside. I wanted to hide it first. I thought, man, love only hurts and curse. But you reversed this bad attitude, and I'm not sad anymore. Not since you've been my lover. Now I only get nasty under the covers. There's no other, no reason, no desire. This is not the doors, but you sure like my fire. Now I burn for you like a pyromaniac. We engaged in conversation and your gaze became a trap. Like a maze without a map, or like days without a nap. I was tired with the dying, need to find something inspiring. And there you were, standing there, like the answer to my prayers. There you were, standing there, like the answer.
I'm yours, and you can do what you want with me. Honestly, pretty in your hands I am. Shake me, take me, have me, hold me. I'm yours, and you can do what you want with me. Honestly, pretty in your hands I am.
like my pulse, I like the way we communicate as adults, but wrestle like we was a couple of kids. When I pin you on the ground and you tickle your ribs, and you slap my face and I'll slap your booty, we can get dressed up and go out to the movies, and I can pretend to be the feminine one, get all dolled up in stocking holes with the run, cause the more whorish, it's more fun, getting slutted out to the maximum, and you can be the greaser with a heart of gold, give me your jacket when the weather gets cold, take me out to dinner in the middle of the night, waitress wanna know,
are you feeling alright?
Cause you try to order but you're barely able, cause you're feeling my handiwork underneath the table. Now you say, baby, I'm in the mood to test out your sexual aptitude, no fantasy. Now you a tutor, let's put a little truth.
C'était Scream Club and You Belong.
L'autre jour, ça m'a pris comme ça, soudain, sans crier gare. J'étais devant l'ordinateur à essayer d'aligner des idées qui ne venaient pas. Et d'un coup, il était là, le titillement dans ma culotte. Ah ça, je l'ai bien senti. Et oui, c'est comme ça, mon corps me rappelle souvent à l'ordre impérieux et urgent de l'envie sexuelle. Personne à la maison. Oui, mais pour combien de temps ? J'hésite un moment et enfin, je me décide à répondre à l'appel urgent de ma chair. Direction la salle de bain. L'endroit est certes inconfortable et dénué de tout charme, mais c'est la seule pièce de la maison qui ferme à clé. Pas question que je sois troublée par l'arrivée impromptue d'un de mes enfants. Et là, tout va très vite. Pantalon à terre, pas le temps d'enlever le haut. Frénétique, je me caresse le ventre, les seins, les cuisses, comme pour annoncer à mon cerveau, par l'intermédiaire de ma peau, que le jeu a commencé. Deux doigts dans la bouche, je les mouille avidement. Tiens, ma tête dans le miroir, j'ai rarement l'occasion de me voir dans ces moments excités. Pendant que ma main descend doucement vers l'endroit précis, cet endroit précis que j'ai appris à connaître, je me laisse glisser, accroupie contre le mur. Et là encore, tout va très vite. Le plaisir ne tarde pas à venir, je le sens. Dans mes bras, dans mon ventre, au bout de mes seins, sur mes tempes. Je me surprends à soupirer un peu fort, je me contiens. Je suis pressée de jouir. J'ai peur que quelqu'un ne débarque et me coupe dans mon élan. Ma main droite se fait plus rapide. Les doigts de ma main gauche s'enfoncent un peu plus profondément. Ça y est. Ça y est. Je sens enfin la puissante étreinte avant le relâchement final. Ça y est. Je retombe assise. La tête en arrière, vidée mais emplie de frissons. Étourdie. Enivrée. Après quelques instants, je reprends mes esprits, me relève et me rhabille. La tension a disparu. Il n'y a plus qu'une sensation de relâchement général de tout mon être.
Telling me things like I stole your heart, even though we're three grades apart. You always didn't even know since I'm my locker. So today after school, I'ma break you off properly. Just wait until three, and then you'll see.
I'm yours, and you can do what you want.
Like multivitamins or old fashioned to frustration, microwavable burritos to gas stations, a homeless to will work for food stamps or a lack of education to a welfare.
C'est donc la fin de cette émission sur des textes érotiques lesbiens. J'espère que vous vous êtes bien amusés, que vous en avez bien profité. Pour finir, on va vous donner un peu les références de tous les textes qu'on vous a lus pour que peut-être vous puissiez les retrouver. Pour finir, une petite blague. Qu'est-ce que c'est
deux blagues ?
Mais une d'abord. Qu'est-ce que c'est qu'un livre érotique ?
Eh bien, c'est un livre qui se tient à une main.
Alors, on va vous donner quelques titres de livres.
Moi, j'ai ma deuxième blague.
Vas-y.
Pourquoi les lesbiennes ont deux trous dans leur culotte ?
Je sais pas, pour passer deux mains. Deux gosses.
Pour gratter les fesses.
Parce que c'était une blague raciste au début, sur les japonaises.
Et c'était donc, quelle est la réponse, Nicolette, oui ?
Pour passer leurs pieds.
Donc, les livres qu'on vous a lus. Alors, il y a eu un extrait, Mathilde. Mathilde, je l'ai rencontrée dans un train, de Si Young, qui se trouve aux éditions Gay et Lesbienne, avec plein de petites nouvelles érotiques assez sympathiques.
Il y avait aussi un extrait de Rose du No Man's Land de Michel T, qui était traduit de l'anglais par Leila.
Il y avait un extrait d'un texte vos désirs sont des échos ou des égaux, écrit par Zig et que vous pouvez trouver dans son intégralité sur Gender Trouble sur Internet.
On a aussi lu un texte de Violette Leduc qui s'appelle Thérèse et Isabelle et qui a été écrit il y a bien longtemps. Genre, elle a commencé en 1948, puis elle l'a achevé en 1966. Quand même, c'était, je pense, un des premiers textes érotiques lesbiens publiés.
Et aussi, il y a eu un texte de Jennifer Gay et un texte de Ingrid Renard qui se trouvent tous les deux dans un recueil de textes au sujet des lesbiennes femmes et des lesbiennes butch qui s'appelle Attirance et il est également aux éditions Gay et Lesbiennes. Attirance, lesbiennes femmes, lesbiennes butch.
On a eu aussi le texte d'une copine sur la masturbation qui s'appelle « Est-ce que c'est toujours chaud dans la culotte des filles ?»
Voilà, on vous a tout présenté.
Non, il y a les chansons encore.
Il y a eu Portichet. Je crois qu'on les a fait.
Et Harold, le fantôme en cible blanc.
Et là, on va vous laisser avec un morceau Don't Forget the Night.
Et aussi, on voulait dire qu'on quenille la Saint-Valentin, qu'on en a rien à foutre.
Des Rita Mitsuko.
Ouais.
1, 2, 3, 4. Don't forget the night when the day began. Don't forget the night who's just finished. Don't forget the day while just living. When the day began. Don't forget the night when the day began. Don't forget the night who's just finished. Don't forget the day while just living. Don't forget the night.